mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir rejoints par ce beau soleil. On est là pour travailler un peu, Bertrand, et pour présenter ce nouveau livre « Nous ne sommes plus seuls au monde, un autre regard sur l'ordre international », livre qui fait suite à une très longue suite d'ouvrages sur des thèmes voisins et qui poursuit votre réflexion, très longue réflexion sur l'ordre international. Je dis ordre international, on pourrait parler aussi de désordre international, de basculement de l'ordre international. Qu'est-ce que c'est que l'ordre international aujourd'hui ? La question se pose depuis le congrès de Vienne, depuis 1945, elle se pose aujourd'hui encore davantage. L'ordre international, ses paramètres, ses changements. Avec donc ce titre qui sonne un peu comme une évidence, nous ne sommes plus seuls au monde. Je crois que les Européens, malgré le départ de la Grande-Bretagne la semaine dernière de l'Union européenne, départ qui d'ailleurs n'est pas totalement acté, ont conscience qu'ils ne sont pas seuls au monde. Néanmoins, la question qui est posée, évidemment, de savoir si les pays du monde qui collaborent ou qui essayent de collaborer mettent leurs actes en conformité avec leurs paroles. Voilà. Donc, peut-être Bertrand Badi, qui est donc un de nos meilleurs experts en relations internationales. Certains d'entre vous ici le connaissent. Vous enseignez les relations internationales à Sciences Po Paris. Auteur de nombreux ouvrages. J'en citerai que quelques-uns parce qu'en prenant les derniers en date, Un monde de souffrance en 2015, Le temps des humiliés en 2014. La diplomatie de la connivence en 2011, plus en avant l'impuissance de la puissance, ça c'était en 2004, et puis il y a 20 ans vous aviez écrit La fin des territoires. J'en laisse beaucoup de côté, en tout cas ce sont quelques pierres sur le chemin d'une longue réflexion sur les relations internationales. Alors Bertrand Badi, quand vous avez choisi ce titre avec votre éditeur, Nous ne sommes plus seuls au monde, à quoi pensiez-vous exactement et souhaitiez-vous faire une grande synthèse, souhaitiez-vous attirer l'attention sur un point particulier du fonctionnement de ce fameux ordre international en qui on aimerait avoir confiance et qui souvent nous contrarie ou nous bouleverse.
Christophe, vous signaliez tout à l'heure que j'ai une longue histoire d'enseignement et de recherche. Vous rendiez hommage à mes cheveux blancs. Mais c'est vrai que je me rapproche de la porte de sortie. Pendant 44 ans que j'ai consacré à la science politique et aux relations internationales plus particulièrement, il y a toujours quelque chose qui m'a troublé et que je n'arrivais pas à identifier. Et qui me semblait être à l'origine de ce qu'il y a de pire en politique, c'est-à-dire le malentendu. Le malentendu est à la base de toutes les productions conflictuelles et de toutes les violences que nous connaissons dans le monde. Et à force de cheminer, à force de chercher, de réfléchir, d'enseigner, de discuter avec les étudiants, avec les collègues, de parcourir le monde, puisque j'ai eu la chance de pouvoir visiter une centaine de pays et d'observer ce qui s'y passait, une chose m'est apparue. C'est qu'une contradiction énorme, qui est tellement énorme qu'on ne la voit pas, qui est que les relations internationales, telles que nous les comprenons, telles que nous les vivons aujourd'hui, ont été inventées en Europe un peu après la Renaissance. Vous savez qu'on dit communément que notre système international est un système westphalien, c'est-à-dire né de la paix de Westphalie 1648, les traités de Münster et d'Osnabrück, qui mettaient fin à une guerre de 30 ans, qui était une des plus violentes et des plus sanglantes que l'Europe ait connues. Et ce n'est pas faux de dire ça. Alors, ça a été beaucoup critiqué, mais je crois que l'idée était juste parce que les relations internationales qui ont été inventées à l'époque se pensaient nécessairement à travers des relations entre États, nations, souverains et territorialisés. C'était la diplomatie du puzzle. On a tous joué quand on était enfant à ce puzzle qui nous permettait de placer les États sur une carte virtuelle. Et en fait, on inventait des relations internationales basées sur la compétition entre États souverains. Eh bien, on n'a pas compris que cette conception des relations internationales correspondait à un moment de l'histoire, correspondait à des circonstances. Et on n'a jamais réfléchi à ce grand tournant qui caractérise le monde du XXe siècle essentiellement, même si ça a un peu commencé au XIXe siècle, qui est l'imposition de cette conception des relations internationales à la planète tout entière. Et nous en vivons aujourd'hui les douleurs, c'est-à-dire l'incompatibilité qu'il y a, le décalage qu'il y a entre le modèle européen, appelons-le comme ça, de relations internationales, et la réalité de cette mondialisation que tout le monde a à la bouche, à l'esprit, sans savoir exactement ce que ça veut dire. Mais la mondialisation, ça veut dire le dépassement complet, justement, du système interétatique. Alors, j'en vois quelques symptômes. Le premier symptôme, et là aussi on n'a pas assez réfléchi, c'est l'échec total de ce grand moment de notre histoire qui a été la décolonisation. La décolonisation s'est traduite par un échec cuisant sur lequel on peut revenir, enfin je ne veux pas parler trop longtemps. Le deuxième symptôme, ça a été l'incompréhension de la mondialisation. C'est-à-dire on est entré dans la mondialisation selon un mode, comme on dit dans notre métier, incrémental, c'est-à-dire en modifiant à la marge les éléments de la logique interétatique. Et là, on en parlera peut-être à propos du Brexit, il y a justement incompatibilité entre les logiques interétatiques et les logiques de mondialisation. Et puis, le troisième symptôme, c'est notre incapacité de gérer la suite de la chute du mur, c'est-à-dire de la fin de la bipolarité Est-Ouest. À l'époque, George H. Bush, Bush père, disait « Nous allons créer un nouvel ordre international. » Le grand échec de William Clinton et de sa secrétaire d'État, Madeleine Albright, qui était issue de la guerre froide, qui incarnait cette culture de la guerre froide, c'est d'avoir pensé qu'on pouvait gérer le post-bipolaire selon les modèles de la bipolarité. Alors, voilà les trois fractures qui dérive de cette incompatibilité qu'on n'a pas su voir et qu'on n'a pas su comprendre. Alors, quelles sont maintenant les conséquences? Les prix, où est la facture? Une modification complète, profonde, d'abord, de la conflictualité mondiale. La guerre, autrefois, était dans la logique westphalienne. La guerre, c'était une compétition de puissance. Et ça permettait aux plus puissants de prendre un avantage sur celui qui l'était moins. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, la guerre n'est plus une compétition de puissance, c'est le contraire, c'est une compétition de faiblesse. Le facteur de guerre aujourd'hui, ce n'est pas la puissance des États, c'est la faiblesse des États. C'est la faiblesse des nations et de leur contrat social. Et c'est la faiblesse des sociétés, ce que mon maître Durkheim dirait, l'insuffisance de densité sociale, de lien social. Donc, on est passé du power politics au weakness politics. Et c'est cette transformation brutale qui fait que nous sommes impuissants face à ces formes nouvelles de conflictualité, car je vous signalerai que les puissances occidentales n'ont jamais réussi à mettre fin à un seul de ces nouveaux conflits. Hein, on peut en faire la liste, mais l'échec est total. L'échec est total. Deuxièmement, nous n'avons pas compris que les relations internationales, c'était fini. Moi, heureusement que je prends ma retraite dans 2 ans, parce que ma carte d'identité de professeur de relations internationales ne fonctionne plus. Maintenant, les relations sont des relations intersociales. C'est-à-dire que les relations qui s'opèrent entre les sociétés, ce que j'appelle dans ce livre l'intersocialité, l'emportent et de beaucoup sur l'interétatisme. Et la question, c'est où est la régulation ? Dans l'interétatisme, on connaît la régulation, c'est la coopération internationale, le multilatéralisme, les conventions internationales. Dans l'intersocial, où est la régulation? Où se trouve l'organisation des sociétés unies? Ça n'existe pas. Où est le partenariat dans l'intersocialité? L'avantage dans l'internationalité, c'est qu'il y a des ambassades, des diplomates, dont c'est le travail de établir des liens et des relations entre États. Quid des relations entre sociétés? Et ça, c'est un deuxième élément extraordinairement important que j'appelle la tectonique des sociétés qui mène le jeu. Et en découlant, et après je m'arrête, Christophe, c'est promis, la montée en puissance des acteurs sociaux non étatiques, comme acteurs, nouveaux acteurs internationaux. Mesdames et messieurs, qui sont les deux personnalités, deux acteurs, ne les flattons pas, les deux acteurs qui ont le plus pesé sur l'agenda international depuis l'an 2000? Monsieur Clinton, Monsieur Bush, Madame Merkel, Monsieur Hollande? Oui, je suis sûr que ça les fait rire. Non, c'est Monsieur Ben Laden et c'est le calife al-Baghdadi. Je ne dis pas ça du tout pour m'en réjouir, qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous. Mais essayons de comprendre comment gérer cet agenda international qui échappe aux États et qui donne aux États un rôle réactif, là où les acteurs non étatiques ont un rôle actif, avec quelque chose de terrible. Mais j'espère qu'on va aller ensuite vers des propos plus optimistes. Quelque chose de terrible, c'est que le propre d'un État, même si c'est la pire des dictatures, c'est qu'il a quelque part une responsabilité. Un acteur, un entrepreneur de violence, un acteur non étatique, où est sa responsabilité? Où peut-elle être mise en jeu? Et ça, c'est un énorme problème, d'autant que, et alors là, j'arrête définitivement, parce que sinon, tout le monde va pleurer, ces acteurs-là, ils ne survivront que si la violence survit. Autrefois, quand les États faisaient la guerre, il y avait toujours un moment où il était raisonnable pour eux d'arrêter la guerre. Pour un entrepreneur de violence non étatique, un monsieur Baghdadi ou monsieur Ben Laden, toute interruption de la production de violence est un échec qui l'oblige à se tourner vers Pôle emploi pour trouver un autre travail. Ah. Eh bien, voilà où nous en sommes. Alors, pourquoi tout ça? Eh bien, c'est ce que j'ai voulu rendre dans mon titre. La grande faiblesse de nos diplomaties. Alors, est-ce qu'il faut dire diplomatie occidentale ou est-ce qu'il faut dire diplomatie traditionnelle, parce que j'inclus la Russie là-dedans? La grande faiblesse de ces diplomaties issues de Westphalie, c'est de ne pas avoir compris qu'elles n'étaient plus seules au monde. Et alors, du coup, les émergents, on les laisse de côté. Du coup, les acteurs du Sud, on n'en tient pas compte. Du coup, les acteurs locaux des conflits, on les ignore. J'avais rencontré une fois, au début de la guerre du Mali, une remarquable personnalité qui était directeur du musée de Gao. Et ce monsieur me dit, vous savez, il y a un proverbe bambara qui dit « On ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence ». Eh bien, c'est ça le problème des relations internationales aujourd'hui.
C'est d'ailleurs un proverbe que vous avez mis quelque part dans...
Ah bah oui, parce que j'étais tellement content.
Quelque part dans le bouquin. Alors, on est passé de ce monde westphalien dont vous avez évoqué la naissance, qui s'est prolongée d'ailleurs, qui s'est prolongée avec en Europe après l'épopée napoléonienne. Donc c'est le congrès de Vienne, avec le nouvel équilibre de l'Europe. Puis ça continue avec après 1914 avec le traité de Versailles. Et puis ça se prolonge quand même à l'échelle mondiale avec 1945, puisque en 1945 se met en place un nouveau directoire qui n'est plus le directoire européen, là, pour le coup, qui est un directoire international élargi avec les Russes.
Parce que les États-Unis sont devenus une puissance européenne. C'est comme ça que s'est construit le clivage Est-Ouest. C'est extraordinaire.
En tout cas, l'Europe qui c'est une expansion à l'échelle internationale. Alors, ensuite, vous êtes passé directement à Ben Laden et à Baghdadi, et donc aux acteurs non étatiques et à un peu à l'explosion de ce système. Mais entre les deux, il y a quand même eu des choses. J'aimerais quand même que vous nous disiez un mot du système... Quand même de l'ONU, des agences internationales, de la création de l'ONU dont nous fêtons le 70e anniversaire, mais aussi peut-être nous parler des tentatives qui de dépasser cette simple diplomatie de connivence, comme vous l'avez appelé, entre des puissances établies, pour essayer d'aller sur un agenda international en faisant du multilatéral. Je pense en particulier à ce texte sur la COP21 qui a été signé à Paris l'année dernière, qui est quand même qui a quand même été saluée comme une belle réussite de, vous allez peut-être me dire le contraire, mais enfin, une belle réussite de la, de la, de la, de la, de discussions internationales à l'échelle de, très difficile, à l'échelle de 180 pays qui ont pu, malgré la divergence, arriver à un accord qui est un accord globalement favorable à, l'en, à l'ensemble de, à l'ensemble des hommes. Voilà, enfin, en tout cas, on l'espère. Alors, ce système multilatéral, je pourrais aussi parler peut-être de l'élargissement du, de l'élargissement du directoire international à une unité plus large. On a parlé du G20 en particulier, qui consistait à mettre autour de la table, autour du directoire mondial de nouvelles puissances, des puissances reconnues, mais aussi des puissances en devenir. Est-ce que tout ça, c'est pas quand même des tentatives pour réformer ce système international, le rendre plus performant, plus efficace, plus proche des réalités d'aujourd'hui? Quel est votre diagnostic sur l'ensemble de ces tentatives?
Alors d'abord, vous avez tout à fait raison. La naissance et la lente ascension du multilatéralisme est un fait majeur dans notre histoire et notre histoire contemporaine. Mais justement, vous avez raison de me demander de l'analyser de manière peut-être un peu plus détaillée. D'abord, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le multilatéralisme a connu une lente ascension qui trouve son point de départ dans le troisième tiers du XIXe siècle. Pourquoi vers les années 1860, 70, 1880, on commence à penser le multilatéralisme? Pour des raisons utilitaire, lié à une découverte d'un phénomène que l'on nommait pas encore et qui était l'ancêtre de la mondialisation. Pourquoi était-ce l'ancêtre de la mondialisation? Parce qu'à la fin du 19e siècle, il s'est passé quelque chose de révolutionnaire. C'est la construction dans le monde d'une communication généralisée. Les deux instances multilatérales qui vont apparaître en premier, c'est comme par hasard l'Union du télégraphe, l'Union internationale du télégraphe et l'Union postale universelle. C'est-à-dire qu'on avait très pragmatiquement en tête que à partir du moment où on était plus figé dans sa souveraineté et qu'on entrait de manière encore très très prudente dans l'ère de la communication généralisée, il fallait un régime pour organiser cette communication. Premier signe inquiétant, deuxième signe encourageant. Premier signe inquiétant, c'est que les hommes et les femmes de cette époque, hélas beaucoup plus les hommes que les femmes alors, considéraient que ce multilatéralisme n'avait de sens que s'il avait une utilité immédiate. C'est-à-dire qu'on a bien créé, à la fin du XIXe siècle, le premier office international d'hygiène publique, mais c'était uniquement destiné à vérifier que les cargaisons qui arrivaient d'Afrique ne portaient pas de microbes. C'est-à-dire les épidémies au sud, personne ne s'y intéressait. On a bien créé la première organisation alimentaire mondiale, mais c'était pour réguler le commerce des céréales que l'Europe développait à cette époque, et pas du tout pour s'occuper de la faim dans le monde. C'est-à-dire que le premier multilatéralisme était pragmatique, beaucoup plus que véritablement humaniste. Et alors, il y a eu un débat à l'époque, débat que je ne dis pas que tout le monde ignore, parce que je suis sûr que vous en avez entendu parler, mais qui est toujours laissé de côté. C'est-à-dire, dans l'esprit des gens, deux conceptions du multilatéralisme. Vous avez côté américain, et ça on l'a retenu, la conception de l'institutionnalisme libéral qui va être portée à son paroxysme par le président américain Woodrow Wilson. Et puis vous avez le solidarisme à la française que tout le monde a oublié. L'institutionnalisme libéral, il ne faut pas oublier une chose, a été produit par un homme qui était un professeur de droit constitutionnel et qui disait « c'est normal qu'il y ait la guerre puisqu'il n'y a pas d'institution dans le jeu international ». S'il y a la paix civile, c'est parce qu'il y a des institutions au niveau des nations. Donc, si on veut véritablement créer la paix dans le monde, il faut créer des institutions internationales.
D'où la Société des Nations, c'est ça?
Alors oui, mais justement, ces institutions internationales, il ajoutait une chose qui est quand même assez remarquable, il disait, mais ces institutions internationales, il faut qu'elles soient alimentées par un principe, et ce principe, c'est l'échange généralisé. D'ailleurs, en fait, le libre-échange. Bon. Vous avez tout à fait raison, c'est ce qui a poussé à la Société des Nations. Mais au même moment, et même un peu plus tôt, c'est-à-dire dès les années 1890-1900, il y avait une école française qui développait l'idée de la nécessité d'un multilatéralisme. Cette école française était menée par un très grand monsieur, dont personne ne parle plus jamais, qui est Léon Bourgeois. Léon Bourgeois, président du Conseil sous la Troisième République, et qui, lui, partait de la démarche inverse de celle de Wilson, en disant « Le grand problème, c'est que l'on va aller de plus en plus vers un monde où les questions sociales vont être plus importantes que les questions stratégiques et militaires et politiques. » Et donc, l'idée de Bourgeois, qui était très influencée par Émile Durkheim, c'était de dire « Il faut créer de l'intégration sociale internationale. » Durkheim disait « Il faut créer de l'intégration sociale. » C'est comme ça qu'est née la politique sociale dans nos États européens. Et en tout premier lieu, l'initiative du chancelier Bismarck, il ne faut quand même pas l'oublier, ce n'est pas forcément par une gauche révolutionnaire. Et Bourgeois, il dit « Mais il va falloir faire ça à l'échelle mondiale. » Or, Bourgeois a été félicité, embrassé, tout ce que vous voulez, puisqu'il a été élu premier président de la Société des Nations. Mais la Société des Nations, vous avez tout à fait raison de le dire, elle a été conçue, non pas sur le mode solidariste, sauf une exception intéressante, la création de l'Organisation internationale du travail en 1920, qui a été d'ailleurs initiée par Albert Thomas, qui était un proche de Léon Bourgeois. Mais pour le reste, on retombait dans une vision purement institutionnaliste. Qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs, quand on est dans une logique institutionnaliste ? Quand on est dans une logique institutionnaliste, c'est très simple de réintroduire les logiques de puissance. Et qu'est-ce qui se passe quand on est président des États-Unis ? On a une peur bleue de son Congrès. Et Wilson avait raison, parce que le Congrès, comme vous savez, a refusé de ratifier le traité donnant naissance à la Société des Nations, donc les États-Unis n'ont jamais été membres de la Société des Nations. Et Roosevelt, en 1945, Roosevelt, à qui on doit d'avoir inventé le système onusien, avait tellement peur qu'il lui arrive la même chose qu'il a utilisé la logique institutionnelle pour dire « ben voilà, on va créer des institutions qui donnent aux plus puissants un pouvoir de blocage ». Alors, moi, j'ai plusieurs fois téléphoné à M. de la Palice. Je lui ai dit « mais comment un multilatéralisme peut fonctionner quand la puissance est réintroduite des logiques de blocage ?» Et M. de la Palice me dit « ben, c'est pas possible ». Alors ça, c'est vrai pour le Conseil de sécurité, tout le monde le sait, mais c'est vrai aussi pour le FMI, c'est vrai aussi pour la Banque mondiale. C'est-à-dire qu'on est dans une logique multilatérale qui a réinjecté les logiques de puissance et interétatique dans son mode de fonctionnement.
Y compris dans les changements de format auxquels on a assisté, je pense. Je ne parle pas du Conseil de sécurité parce que là, on n'a jamais réussi à élargir le nombre des cinq détenteurs du droit de veto. Mais en revanche, dans les institutions que vous venez de citer, le Fonds monétaire international, par exemple, on a assisté à quelques rééquilibrages internes pour permettre à des pays émergents d'avoir voix au chapitre.
Bah, c'est-à-dire que le grand résultat, la grande victoire, ça a été que la Chine est à peu près maintenant le même niveau que la Belgique en quote-part à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international.
Pas plus.
Pas plus.
Oui. Donc on est très loin du compte.
Voilà.
Alors ce multilatéralisme donc est de votre point de vue en échec complet alors.
Non, je dirais pas échec complet. Cette logique pragmatique que je désignais tout à l'heure, elle a poursuivi son petit bonhomme de chemin, nous évitant bien des dangers. Et ça, il faut quand même effectivement le signaler. Je voudrais vous donner un exemple. Il y a deux conventions, celle de Varsovie et celle de Montréal, qui règlent l'organisation de l'aviation civile internationale. Tous les pays, y compris la Corée du Nord, y compris les pires des rogue states, y souscrivent.
Les rogue states, ce sont les États voyous, c'est ça ?
Voilà. Oui. C'est-à-dire, en gros, les gens qu'on n'aime pas, quoi.
Voilà.
Et donc, ça marche magnifiquement. Et pourquoi ça marche magnifiquement ? Parce que imaginez qu'un jour, il n'y ait plus de régime de fonctionnement de l'aviation civile internationale. Tous les avions sont cloués au sol L'économie mondiale s'effondre en l'espace de quelques jours. Rappelez-vous le coup du volcan islandais. Là-bas. Donc, nous sommes dans une logique où les gens ne sont pas stupides. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un impératif technique, le multilatéralisme marche parfaitement. Ce qui me permet de dire, cher Christophe, c'est bien la preuve que tous les arguments qu'on utilise contre le multilatéralisme sont de faux arguments. C'est-à-dire, il y a trop de monde, 193 États, c'est impossible de les mettre d'accord, donc il faut restreindre, donc il faut faire des G-machins, G-trucs, etc. Oui. Bon, mais quand vraiment on a besoin que ça marche, ça marche.
Mais le climat, par exemple, c'est un peu plus compliqué comme modèle que la circulation des avions, qui est un problème technique, là, pour le coup. Le climat, ce n'est pas un problème technique.
Le climat, c'est une révolution et c'est un blocage. C'est l'association des deux, justement. La révolution, c'est quoi? C'est cette extraordinaire difficulté, mais qui a été vaincue, de faire des enjeux climatiques, et je dirais plus généralement des enjeux environnementaux, des enjeux internationaux.
Ça, c'est réussi.
Bah, ça y est, maintenant, plus personne ne dit, c'est pas... Enfin, il y en a qui acceptent du bout des lèvres, mais enfin...
Donald Trump, qui sera peut-être le président des États-Unis, dit pas ça, lui. Oui, enfin, je vous provoque.
Effectivement, vous pouvez me sortir Donald Trump sur tous les trucs pour voir que ça ne marche pas. Mais de toute façon, s'il est élu président, qu'à Dieu ne plaise, il fera fonctionner la gouvernance mondiale exactement comme ses copains auparavant. Hein. Mais ce que je veux vous dire, parce que ça, on ne le voit pas assez, c'est que moi, quand j'étais étudiant, il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Oh non, ne riez pas, parce que je vais être vexé. Quand j'étais étudiant, environnement, ça ne voulait rien dire. Si on parlait d'environnement, c'est ce qu'il y a autour, c'est les périphériques, c'est tout, etc. Bon. La manière dont cet enjeu, d'abord, a été identifié, compris, et ensuite inséré sur l'agenda international, ça a été une douleur très grande et très lourde, qui, effectivement, la césure, ça a été le sommet de Rio 1992, où, effectivement, la communauté internationale, entre guillemets, a officialisé, institutionnalisé les enjeux environnementaux comme enjeux internationaux. Je voudrais, par parenthèse, rendre hommage à une très belle institution des Nations Unies, qui est un programme des Nations Unies, le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, qui est probablement ce qui a été fait de mieux dans l'histoire du multilatéralisme onusien, qui l'a inscrit 2 ans plus tard, en 1994, comme l'une des 7 sécurités humaines, avec la sécurité alimentaire, sanitaire, économique, individuelle, etc. Bon. Donc ça, c'est une révolution extrêmement forte. Maintenant, il y a un blocage. Et je ne suis pas sûr du tout que la COP21 ait levé ce blocage. Le blocage, qu'est-ce qu'il est? Alors, c'est là, ça ressemble comme deux gouttes d'eau au Brexit, d'ailleurs. Et c'est un des thèmes que j'essaye de développer dans mon livre. Qu'est-ce que c'est qu'un acteur politique? Un acteur politique est quelqu'un qui produit de la décision dès lors qu'il a la certitude qu'il aura à court terme un retour sur investissement. En gros, pour qu'une décision soit politiquement rationnelle, surtout dans les démocraties, il faut qu'elle soit le moins coûteuse possible à court terme et le plus rentable possible à court terme. En bref, que le temps que se représente l'acteur politique devant les électeurs, les gains, les emporter sur les pertes. C'est ça le calcul. Le drame des enjeux environnementaux, et en particulier du réchauffement climatique, c'est que ça implique un très fort investissement à très court terme, c'est-à-dire une modification profonde des politiques industrielles, une modification profonde des politiques d'échange, une modification profonde de la gouvernance nationale, régionale et mondiale. Donc ça demande un très fort investissement à court terme avec des gains et un retour sur investissement qui ne s'opère que sur le long et très long terme. Maintenant, la non-décision en matière climatique a l'avantage, mesdames et messieurs, de ne pas être coûteux à court terme, parce que vous décidez rien, vous changez rien, donc les choses continuent, et ce non-coût est considéré comme un gain par ceux qui soulageaient de savoir qu'il n'y aura pas une nouvelle taxe carbone, etc., etc., l'accueillent comme une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et en revanche, les effets négatifs du réchauffement climatique ne se feront sentir dans leur acuité que dans 20 ou 30 ans, lorsque l'acteur politique sera sous terre. Donc, quel est l'optimum de rationalité face à ce type d'enjeu ? C'est surtout ne rien décider, de manière à rien avoir à payer, et laisser aux générations futures le soin de prendre en charge les dégâts. L'élément positif de la pression multilatérale, inaugurée en 1992 avec la conférence de Rio, c'est qu'il s'est constitué dans le système international une sorte de contrôle social qui stigmatisait le comportement d'ignorance des questions environnementales. Donc, effectivement, pour ne pas être stigmatisé, il faut quand même faire quelque chose. Alors, quand vous pouvez faire quelque chose, mais qu'il faut surtout que vous ne fassiez pas quelque chose qui coûte, qu'est-ce que vous faites ? Ben, vous parlez. C'est-à-dire, vous faites de la rhétorique politique. C'est-à-dire, vous faites de ce que l'on appelle en diplomatie du cosmétique. Ben voilà, moi je pense qu'on en est là.
Mais vous avez parlé de Rio 92 et donc on Paris 2016, donc si je calcule bien, on a un quart de siècle entre les deux. Ça signifie que la décision de Paris s'appuie sur le repère de Rio. Ça veut dire qu'on avait finalement une ancienneté dans les constats d'environ un quart de siècle de recul pour pouvoir constater la dégradation qui permettait de rendre une décision possible. Hein, si on n'avait pas Rio 25 ans en avant, on n'aurait pas les repères de dégradation qui permettent de voir qu'il était temps de décider quelque chose, même si ce n'est pas la hauteur des enjeux.
Oui, mais ce qui me fait peur, vous savez, dans ces conventions internationales, l'élément de repère, c'est le niveau de contrainte des réglementations élaborées. Ça veut dire quoi, les niveaux de contrainte ? C'est-à-dire comment une souveraineté doit se soumettre à une décision globale. Ce qui est quelque chose qui n'a jamais été théorisé. Je le dis devant Leonardo Morlino, qui est professeur à la LUIS et qui est ancien président de l'Association internationale de sciences politiques et qui connaît ça parfaitement. On n'a jamais théorisé les conditions et les circonstances dans lesquelles, effectivement, le retrait de souveraineté devient soit obligatoire, soit désirable face à la pression d'un bien commun. Et donc, ce qui me fait peur, c'est le flou de l'élément le plus sensible de l'accord de la COP21, c'est-à-dire l'obligation des États de rendre des comptes dans la réalisation concrète de ce qu'ils ont fait pour diminuer de 1,5, comme vous le savez, le réchauffement climatique.
J'aimerais revenir à l'ordre international, qui est quand même votre sujet. Comment le décrire aujourd'hui, cet ordre international, puisque on a toujours donc en pratique une organisation des Nations Unies guidée par un Conseil de sécurité, donc avec une petite oligarchie toujours puissante et décisionnaire, des nouveaux acteurs étatiques qui ont pris beaucoup d'importance, et puis cette multitude d'acteurs non étatiques dont vous soulignez l'influence, pas toujours visible, mais très, 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 très grande. Comment est-ce que l'articulation entre les acteurs étatiques qui subsistent et qui restent très puissants, et les acteurs non étatiques qui percent toutes les frontières, qui font que nos frontières terrestres, nos frontières, j'allais dire, westphaliennes, n'existent plus que comme des pointillés. Comment est-ce que l'articulation se fait aujourd'hui ? Est-ce qu'on est dans un système de bascule permanente ? Est-ce que dans un système où il y a de temps en temps des tentatives de reprise en main par le vieux système et puis des avancées multilatéral, comment ça se passe aujourd'hui ? Est-ce qu'on est dans un ordre bancal, dans un désordre, dans une reprise en main, dans une mutation, une transformation ?
Petite
où,
question.
Où sommes-nous là ?
Petite question.
Oui. Petit. Bon. Bah non. Mais où sommes-nous ? Voilà.
Alors. En 2006. D'abord, quand même, ordre, désordre. Je déteste le mot désordre international. Parce que qu'est-ce que ça veut dire désordre international ? Ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire qu'il y a un deus ex machina et que ce deus ex machina, qui est censé forger le monde n'est plus obéi. Et donc que c'est le bazar, comme on dit, pour ne pas employer des termes encore plus vulgaires. Et puis il y a une autre conception subjective du désordre international, c'est « je ne comprends pas le jeu international, donc c'est du désordre ». Si je ne comprends pas, c'est que c'est du désordre.
Mais vous, vous comprenez, Bertrand?
Attendez, je fais l'effort de comprendre.
Voilà.
Et c'est justement là qu'il y a le hiatus, c'est-à-dire il faut faire de la sociologie compréhensive des relations internationales actuelles. Pourquoi nos dirigeants occidentaux, et j'aime pas d'ailleurs ce mot occidental qui ne veut pas dire grand-chose, mais je dirais pourquoi les dirigeants issus du vieux monde ne comprennent pas, pourquoi parlent-ils si souvent de désordre international? C'est parce qu'ils ne savent pas l'interpréter. Nos chefs d'État, les conflits au sud ressemblent comme deux gouttes d'eau aux guerres que nous avons eues en Europe. Et qu'après tout, une bonne bataille de la Marne réglera les comptes de Daesh ou d'Acmi ou des talibans. Ça, c'est fini, ça. Ça ne marche plus. Pour les raisons que je disais tout à l'heure, les conflits ont profondément changé de nature. Parce que nous avons une vision terriblement eurocentrée des relations internationales. Parce que, comme vous le soulignez tout à l'heure, nous sommes dans la continuité Westphalie, congrès de Vienne, deux guerres mondiales, bipolarité, guerre froide et ce qui s'ensuit. Il y a un ordre international que l'on peut comprendre à plusieurs conditions. Et c'est ce que je propose dans ce livre. Et ce n'est pas si compliqué que ça. La première condition, c'est de partir du monde et de cesser de partir de l'ancien monde. C'est-à-dire, il faut regarder le monde dans sa globalité. Rien, et ceci s'applique...
C'est pas seulement parler de la Chine, qui est le nouvel acteur mondial.
C'est parler du monde. Il y a 7 milliards d'êtres humains dans le monde. Les relations internationales aujourd'hui impliquent 7 milliards d'acteurs. Avec tout cet écheveau, mesdames et messieurs, d'histoires différentes, de cultures différentes, d'économies différentes, de structures sociales différentes. Bon.
Bah donc il faut un super calculateur pour arriver à construire le modèle.
Un super calculateur, il faut, lorsque vous observez le conflit en Afghanistan ou vous observez le conflit au nord de la Mésopotamie, que, comme l'indiquait mon sage directeur du musée de Gao, vous commencez par regarder les acteurs locaux. D'où ça vient? Pourquoi ces conflits? Vous savez, il y a un grand dirigeant occidental qui, je crois, et il faudra lui rendre justice un jour, a été le premier à parfaitement comprendre tout ça, c'est Barack Obama, dont je ne me consolerai pas du départ prochain. Une fois, il y a eu une interview par un journaliste américain de Barack Obama. Et je l'avais entendu, j'étais pas très bien réveillé, et je n'en croyais pas mes oreilles. Le journaliste disait à Barack Obama, mais enfin, Daesh, c'est 30 000 hommes. Pourquoi toute cette énorme coalition ne peut pas arriver à bout de 30 000 hommes? Et Obama de répondre, mais c'est très simple, c'est parce que Daesh a un soutien social dans la population locale et que vous ne pouvez pas calculer Daesh uniquement à travers ses 30 000 combattants. Et qu'au-delà de son soutien local, il dispose de tout un réseau d'identification sociale d'individus qui, à tort ou à raison, c'est le phénomène du djihadisme, s'identifient à la cause de Daesh. Ça, c'est un phénomène sociologique. Si vous le prenez en compte, vous progressez énormément dans la connaissance de la conflictualité mondiale. Alors, ce que j'ai observé, c'est que YouTube a supprimé cette interview, qui n'est plus retrouvable. Et je vous assure pourtant que je n'ai pas eu la berlue, qu'il l'a bien dit. Bon. Mais c'est normal qu'il l'ait dit parce que j'ai accumulé beaucoup, beaucoup de choses sur Obama et il a cette matrice de compréhension du monde et je crois que son histoire personnelle l'aide à comprendre un certain nombre de choses qu'un monsieur Trump sera ou que même une madame Clinton sont absolument incapables de comprendre. Bon.
C'est pas très encourageant, dites-moi.
Non, c'est pas encourageant. Donc, vous me posez la question, je veux dire, si vous regardez le conflit mésopotamien, si vous continuez à dire il y a la guerre là-bas parce qu'il y a des bad guys, des sales types, n'est-ce pas, qui viennent porter la terreur et la violence, évidemment que c'est des sales types, toute personne qui tue peut être présumée sale type, mais essayons de nous demander comment on en est venu là. On en est venu là, d'ailleurs pas du fait de la guerre civile syrienne, mais du fait de la décomposition de l'Irak. Lorsque, dans le contexte du renversement de Saddam Hussein, on a ostracisé une partie de la communauté nationale qui était les sunnites. Et l'ostracisme que connaissaient nos anciens est un phénomène qui est rarissime dans l'histoire des relations internationales, dont certaines minorités ont cruellement eu à subir, les juifs, les arméniens, etc. Mais dans notre contemporanéité immédiate, mettons les Hutus aussi, c'est quand même un phénomène rare. Tout un morceau de la communauté nationale est rejeté. C'est-à-dire, vous n'avez plus accès au pouvoir administratif, vous n'avez plus accès au pouvoir politique, vous n'avez plus accès au pouvoir militaire, vous n'avez plus accès au pouvoir économique. Donc, débrouillez-vous. Ce qui veut dire, en langage de notre philosophie politique occidentale, on déchire le contrat social. Quand vous déchirez le contrat social, j'ai passé immédiatement un coup de fil à M. de la Palice, quand on déchire le contrat social, on est dans une situation de guerre civile. D'ailleurs, on est dans la situation pré-obsienne. Bon, qui, effectivement, a été une aubaine pour Daesh. Et si vous continuez maintenant la seconde, et que vous atteignez le second volet du conflit mésopotamien, qui est la Syrie du Nord, qui est intervenue après, n'est-ce pas, c'est alors quelque chose d'un petit peu différent, mais qui revient substantiellement au même, c'est-à-dire aussi un contrat social qui a été déchiré, une partie de la population syrienne qui refuse totalement l'allégeance à la dictature baasiste. Bon, vous créez de l'exclusion, quand vous créez de l'exclusion, vous créez de la violence.
Mais enfin, je voudrais quand même signaler, s'agissant de l'Irak, que ce n'était pas forcément l'ostracisation des sunnites en tant que tels. Ce qui s'est passé, c'est que l'armée... Pardon ? Oui, pardon. Non, ce que je voulais dire, c'est que ce qui a été ostracisé, c'est le parti.
Et là, vous êtes sunnite,
l'armée et le parti ont été démantelés. C'est ce qui aboutit à ce que vous dites. Mais est-ce que c'était la communauté sunnite en tant que telle ?
Tous les sunnites ont
Je ferme la parenthèse.
Tous les sunnites ont été vidés de l'armée. C'est comme ça que Ezzat Ibrahim Abdouri s'est retrouvé un des chefs militaires de Daesh, n'est-ce pas? L'administration a été lessivée, mais le monde des affaires et le monde économique aussi. Vous êtes entrepreneur sunnite, vous n'avez rien à faire. Alors vous pouvez légitimer ça en disant mais les chiites ont vécu la même chose pendant la période de Saddam Hussein, mais je vous renvoie la question en disant est-ce qu'on peut gouverner ainsi? Est-ce qu'on peut gouverner par l'exclusion? Ce qui est un sujet que l'on ne pose jamais, qui est pourtant essentiel.
Alors, il y a tout de même eu un succès l'année dernière dans les relations internationales. Et c'est un succès qui vous est cher, de vous le citer. C'est l'accord qui est intervenu sur le nucléaire iranien. Après une décennie décennie pendant laquelle le problème semblait insoluble, à quoi ce succès est-il dû de votre point de vue? Est-ce que c'est tout de même un petit groupe d'États qui a négocié? C'est pas la communauté internationale en tant que telle, enfin, c'est-à-dire au sens le plus large, qui a négocié avec l'Iran. C'est un certain nombre de puissances qui sont souvent des puissances nucléaires d'ailleurs, pas seulement, mais alors est-ce que cet accord qui intéresse le monde entier néanmoins, est-ce que ça a été le produit d'un accord entre quelques personnes, quelques puissances, ou est-ce qu'il y a eu un mouvement international derrière qui a permis de régler un des problèmes les plus obsédants de l'agenda international?
Alors, vous avez tout à fait raison d'en parler dans le prolongement de ce qu'on vient de dire, parce que derrière les années de blocage sur le nucléaire iranien, il y avait à nouveau cette diplomatie de l'exclusion. Ce n'était pas une politique de l'exclusion, c'était une diplomatie de l'exclusion. Et cette diplomatie de l'exclusion part du postulat qu'un certain nombre de puissances peuvent régir le monde en excluant tous ceux qui relèvent d'options différentes. C'est d'ailleurs dans ce sillage qu'a été inventé ce funeste concept de « rogue state », c'est-à-dire cette idée finalement qu'il y a une norme internationale et qu'une petite partie du système international peut définir la norme. Alors, c'est très intéressant du point de vue de notre discipline, parce que c'est un phénomène totalement nouveau. Comme les relations internationales classiques étaient à l'échelle de l'Europe, le jeu westphalien, puis le jeu de Vienne, et jusque à ce que l'on a appelé, à juste titre d'ailleurs, le jeu bismarckien, était toujours un jeu d'inclusion. C'est-à-dire la diplomatie westphalienne pouvait fonctionner parce que personne n'était dehors. Voyez-vous ? Bon. Le phénomène a été gelé par la guerre froide, puisque la guerre froide, c'est justement le choix de ne pas provoquer l'exclusion de l'adversaire qui était l'URSS. Et d'ailleurs, la guerre froide s'est peu à peu transformée en coexistence pacifique et donc en diarchie. C'est-à-dire que la diplomatie a été, jusqu'en 1989, fidèle à son identité, c'est-à-dire une identité inclusive. Le propre de la diplomatie, moi, un de mes maîtres, le professeur Paul Sharp, quand il qui est professeur à Minneapolis, définissant la diplomatie, donne la définition la plus magnifique que l'on puisse trouver, la plus claire de la diplomatie, il dit « the art of managing separateness », c'est-à-dire gérer les séparations. Et plus il y a de séparation, plus on a besoin de diplomatie.
Les séparations ou les tensions, non ? Réduire les tensions.
Les gaps, les fossés. Bon, à partir du moment où il y a des fossés, eh ben, il y a des ingénieurs spécialisés qui gèrent ces fossés. Ces ingénieurs spécialisés en matière de fossés, c'est des diplomates. Or, ce qui est tout à fait extraordinaire, si vous regardez l'histoire de notre continent, c'est que ça a toujours parfaitement marché. C'est-à-dire personne n'a jamais été exclu. Alors, il y a eu juste ce moment de grande émotion qui a été la période Révolution-Napoléon, où effectivement, Napoléon, ce n'était pas des nôtres, donc qu'en faire, etc. Ce qui est très intéressant, c'est que Napoléon lui-même a toujours joué le rôle de l'inclusion, qu'il cite avec le tsar de Russie, le mariage avec la princesse autrichienne, etc., etc. Donc, le jeu, lorsque Bismarck, ennemi juré de la France, convoque en 1885 le congrès de Berlin sur le partage de l'Afrique, il veille surtout à ce que la France ait les plus beaux morceaux. Hein ? Pourquoi ? Parce qu'il se disait très intelligemment que plus la France aura de beaux morceaux en Afrique, moins elle viendra nous titiller à nos frontières et songera à l'Alsace-Lorraine. Ce qui montre bien que l'intelligence de la diplomatie était une intelligence inclusive. Et ceci, ça a marché jusqu'en 1989. Il n'y a pratiquement pas eu d'exception. Après, ça s'est déréglé. Et pourquoi ça s'est déréglé ? Pour deux raisons. La première, c'est que comme nous sortions d'une logique bipolaire et une logique d'affrontement direct, l'idée s'était imposée que le monde occidental avait gagné la guerre froide et que donc l'Occident avait naturellement vocation à gérer le monde dans son entier. Et du coup, les affaires de diplomatie et de guerre, d'affaires techniques, sont devenues des affaires morales. Et on ne combattait plus l'ennemi parce que c'était l'ennemi, on le combattait parce que c'était le barbare, parce que c'était le faussaire, parce que c'était le brigand, parce que c'était le voyou. Voilà. Et tout ceci a banalisé de manière extraordinairement dangereuse l'exclusion de pas n'importe quel État, des États les plus sensibles, c'est-à-dire ceux des États qui étaient installés dans les volcans, c'est-à-dire dans les cratères du monde, c'est-à-dire les États du Moyen-Orient d'une part et les États sahéliens d'autre part. On a alors inventé la diplomatie du juge. D'abord, on allait juger l'autre au lieu de négocier avec lui. On allait le juger. Et deuxièmement,
vous pensez quoi, la Cour pénale internationale ?
Oui, mais ça, la Cour pénale internationale, ça a été un accident de cette histoire. Bien avant ça, je pense à tout le discours des années 90, alors que la Cour pénale internationale n'existait pas, qui était ce classement des régimes en fonction des crimes qu'on leur attribuait. Alors, si c'était des criminels utiles, on ne voyait aucun crime, hein, confère l'Arabie Saoudite, confère... je ne vais pas faire la liste, n'est-ce pas ? Et si, en revanche, c'était des criminels qui nous gênaient, alors là, effectivement, on les mettait dans les poubelles de l'histoire. Tout ceci a casser la diplomatie. La diplomatie s'est étranglée. La diplomatie est devenue, à partir de ce moment-là, l'art de prendre des tasses de thé entre amis. C'est-à-dire, effectivement, recevoir le prince de Monaco, lui faire un gâteau, etc. Le diplomate était réduit à cela. Le génie d'Obama, vous voyez que décidément je suis son propagandiste, c'est que justement Obama a bien compris que rien n'était possible au Moyen-Orient à partir d'une logique d'exclusion.
Enfin, alors, l'accord sur le nucléaire iranien marque-t-il un tournant à ce moment-là ?
Et comment ? Puisque d'abord, alors ce qui est intéressant et qu'on ne dit jamais, c'est que les négociations qui ont abouti à l'accord du 14 juillet 2015 ont commencé en 2013. Alors que Rouhani n'était pas élu président de l'Iran et qu'à la tête de l'Iran se trouvait ce personnage affolant qui était M. Ahmadinejad. Donc, c'est bien la preuve que Obama avait une vision stratégique et non une vision éthique. Bon, on aurait pu se dire, il trouve Rouhani sympathique, il tente le coup, etc. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Des négociations secrètes irano-américaines se sont tenues à Oman, qui est... Voilà, disons, en position d'équilibre entre les différentes puissances régionales et pas très éloignée de l'Iran, de tous les points de vue, et ont peu à peu contribué à réintégrer l'Iran dans le jeu de la négociation. L'idée d'Obama, c'était de dire, à partir du moment où on réintègre l'Iran dans le jeu de la négociation, alors on pourra utiliser l'Iran pour avancer sur un certain nombre de dossiers, ce qui d'ailleurs n'a pas été totalement faux, puisque l'Iran a donné un sérieux coup de main sur le dossier syrien.
Donc est-ce que vous considérez aujourd'hui que l'Iran, par exemple, était réinclus dans le concert international ?
Oh, il y a encore des gens qui lui font la tête, mais en fait, en gros, effectivement, l'Iran joue son rôle naturel de puissance régionale. On est dans un monde où la notion de puissance régionale fait plus de sens que la notion de puissance mondiale.
Et est-ce que vous pensez qu'un accord comme celui qui est intervenu avec l'Iran peut intervenir avec la Corée du Nord, qui pose un autre problème ?
C'est très différent. C'est très différent parce que l'Iran est une puissance régionale.
L'État voyou par excellence, enfin,
au terme de ce que... Mais la situation n'est pas la même, parce que l'Iran est une puissance régionale dans une région hyper conflictualisée. La Corée du Nord est une puissance isolée qui n'a pas de relais hors d'elle, hein, et Dieu sait si la Chine s'en méfie, et qui donc n'a pas une capacité politique, j'ose pas dire stratégique, dans la région. Donc la politique finalement de la communauté internationale est assez continue de ce point de vue, c'est-à-dire containment, c'est-à-dire contenir les risques de débordement et inutile d'aller plus loin. Vous réintroduisez la Corée du Nord dans le jeu international, qu'est-ce que vous gagnez ? Franchement, qu'est-ce que vous gagnez ? Peut-être la possibilité pour Obama de faire un voyage à Pyongyang. Bon, je ne pense pas que ce soit le rêve de sa vie.
Vous gagnez peut-être un début de régulation des circuits noirs du nucléaire avec les dangers que ça comporte.
Oui, alors là... du boulot à faire. Encore, oui, oui. Hein, parce que la Corée du Nord, faudrait dire la même chose au Pakistan, à la Russie, à l'Inde, à Israël, à la France. Vous savez, que celui qui n'a pas péché en la matière lance la première pierre.
Je voulais quand même avoir un petit mot sur le Brexit, je sais que c'est pas du tout le thème de votre livre.
Mais pourquoi vous dites ça après, les gens vont pas le lâcher.
Voilà.
Évidemment, le Brexit ne s'était pas encore effectué quand mon livre est sorti, mais mon livre permet de comprendre le Brexit.
Mais comment alors la question qu'on se pose, c'est évidemment d'interpréter le geste qu'ont fait les électeurs anglais en choisissant de retirer leur pays d'une organisation qui est une organisation internationale, enfin une organisation régionale qui s'appelle l'Union européenne, qui est une grande organisation. Quel bénéfice un pays peut-il attendre de se réfugier dans un réflexe, je dirais, néo-nationaliste comme celui auquel on assiste? Compte tenu de l'évolution visible des enjeux internationaux, quel bénéfice le pays peut-il en tirer et est-ce qu'il y a là simplement de la part des électeurs un mauvais réflexe?
Alors, comme quoi je me sens tout à fait dans mon livre, on ne peut pas analyser le Brexit hors d'une approche globale, ce qui manque à mon avis. Premièrement, alors un certain nombre de petites choses. La dernière mode, parce qu'il y a toujours des modes quand il se passe des événements importants, c'est de dire mais c'est pas si important que ça, puis de dire ça va peut-être pas se faire, et puis etc. Ça. Absurde. C'est extraordinairement important. C'est extraordinairement important parce que c'est rarissime. Et en fait, sous cette forme-là, c'est un cas unique dans l'histoire du monde qu'un État se retire d'un ensemble régional. Il y a quelques exemples. Le Maroc qui s'est retiré de l'Union africaine pour protester contre les positions de l'Union africaine sur le Sahara. L'Indonésie qui s'est étirée des Nations Unies, mais pendant 19 mois et qui est ensuite revenue. Nous sommes dans un monde où le retrait est toujours considéré, et à juste titre, comme extraordinairement coûteux. Donc c'est rarissime, et parce que c'est rarissime, ça demande à être regardé très sérieusement. Deuxièmement, les conséquences pour le Royaume-Uni sont absolument gigantesques. En faisant un peu de provocation sur une radio que je ne nommerai pas, j'ai dit que la Grande-Bretagne risquait de devenir un « fail state ». Ben, si vous enlevez à la Grande-Bretagne l'Écosse, que l'Irlande se réunifie et que Londres devient un micro-État indépendant à l'intérieur de cet ensemble, ça a toutes les caractéristiques du fail state. Bon, je pense qu'on n'arrivera pas jusque-là, mais enfin, qu'un État de la puissance de la Grande-Bretagne puisse être à ce point ébranlé par un événement comme ce référendum est quand même très très significatif. J'ajoute d'ailleurs que l'incapacité du système politique britannique de réagir à ce tremblement de terre, le fait par exemple que les leaders du Brexit refusent de se présenter comme à la présidence du Parti conservateur, le fait qu'on essaye d'immoler ce malheureux Jeremy Corbyn qui n'y est absolument pour rien, montre effectivement à quel point ce système politique vacille. Mais ça, ce n'est pas mon boulot, je ne suis pas spécialiste de la Grande-Bretagne, ce n'est pas mon problème. Moi, ce qui m'intéresse et qui me fait peur et qui me préoccupe, c'est que toute la logique du Brexit, dans le comportement tel qu'on le perçoit dans le comportement rhétorique et électoral des Britanniques qui ont soutenu le Brexit, c'est une réaction identitaire et nationaliste sévère. C'est-à-dire l'idée selon laquelle l'isolement est plus rentable et plus profitable que l'inclusion et l'intégration. Ça, c'est quelque chose qui, pour les sociologues, d'une façon générale, alors surtout moi qui suis durkheimien, je ne comprends pas. Moi, j'ai appelé Durkheim, je n'ai pas réussi à l'avoir au téléphone, mais je voudrais
ça fait beaucoup de monde. Hein.
C'est quelque chose que jamais, mesdames et messieurs, la sociologie n'a pu véritablement envisager. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous suivez la rhétorique identitaire qui a donné corps au Brexit, vous allez trouver non pas tant la mise en accusation du libre-échange avec les autres États européens, pas même tant la concurrence que représente l'arrivée en Grande-Bretagne d'une main-d'œuvre européenne susceptible de la concurrencer, c'est le migrant. C'est le migrant qui a été placé au centre de la stigmatisation. C'est-à-dire, moi, j'interprète de manière très claire les choses comme ça, c'est que ça veut dire que ce vote est un vote anti-mondialisation, de refus de comprendre ce qu'est véritablement la mondialisation, avec laquelle, mesdames et messieurs, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, il faudra que nous fassions, l'incapacité de comprendre que dans notre monde aujourd'hui, le migrant est l'avenir du monde, qu'il y a en Afrique toute une jeunesse qui n'a aucune chance de s'en sortir hors la migration, ou alors en devenant enfant-soldat, et personnellement j'aime mieux qu'ils deviennent migrants qu'enfants-soldats, et que donc il y a derrière cette crispation identitaire qui est une impasse complète parce que le nationaliste n'a rien à vendre à la mondialisation, c'est-à-dire n'a rien à proposer pour penser ce que nous devons d'urgence pensée qui est la gouvernance globale. Et alors, ce qui m'a mis dans un état épouvantable, à tel point que j'ai failli pas venir aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est le début de réaction des autres princes européens qui essayent de parer au feu en disant, ben oui, effectivement, il faut renforcer les frontières extérieures de l'Europe, il faut tout de suite proposer une Europe de la sécurité qui soit davantage protégée. C'est-à-dire quelque chose qui va exactement dans le sens de ce qui place nos amis britanniques dans une totale impasse. C'est terrible, ce genre de choses. Alors, sans compter le deuxième scandale, pour une fois, Hollande n'a pas été le pire, parce que Mme Merkel, ça a été 100 fois pire, lorsqu'elle commence à nous expliquer qu'il y a le temps, il faut voir, etc. Non, mesdames et messieurs, il n'y a pas le temps. Parce que qu'est-ce qui tue l'Europe? Vous savez ce qui tue l'Europe? C'est la logique du bargaining, du compromis, du rapiessage, du rafistolage, la politique de la rustine. C'est-à-dire, on est 27, on est en complet désaccord, donc pour survivre, on va mettre une rustine supplémentaire, on va recoudre un trou qui s'est formé et ça sera reparti pour 10 ans. L'Europe que j'ai connue quand j'étais jeune, elle avait une identité. Elle était destinée à mettre fin à la guerre en Europe et à œuvrer à la reconstruction de l'Europe. Ça avait un sens. À l'époque, on ne se posait pas de questions. Bon, aujourd'hui, quel est le sens de l'Europe? La logique associative qui a présidé à sa naissance faisait sens quand il s'agissait de mettre fin à la guerre et d'œuvrer à la reconstruction. Nous devons notre reconstruction européenne à l'alliance du charbon allemand et du charbon français. C'est quand même quelque chose de très important, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, cette logique du stakeholding, de l'association, elle n'a aucun sens, elle ne sert à rien. L'association face à la mondialisation, ça ne crée que des fissures, ça ne crée que des réinvestissements dans les intérêts nationaux en compétition. Et c'est pour ça qu'on voit cette montée d'un néo-nationalisme qui fleurit partout, et hélas, en particulier chez nous. Il faut passer, voilà, les mannes de Léon Bourgeois à nouveau qui sont sollicitées, au solidarisme, c'est-à-dire construire une Europe de la solidarité.
Bon, dites-moi, les Anglais vont revenir sur leur décision?
Je n'en sais rien, demandez à Mme Soleil.
Personnellement,
s'ils revenaient sur leur décision,
enfin, revenir, ou en tout cas,
je n'oserais plus enseigner la théorie de la démocratie aux étudiants.
Ils vont d'une certaine façon, il y a d'une certaine façon une voie à trouver qui soit pas la voie de l'exclusion pure et simple de l'Angleterre, de l'ensemble européen.
Écoutez,
même si elle s'est exclue
le peuple britannique, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le référendum. Je suis assez sceptique sur l'instrument référendaire, mais ça, c'est une autre question. Il y a aussi à se poser une question de théorie politique, qui est de savoir dans quelle mesure, quand on fait partie d'une communauté politique, on est habilité chaque année à reposer la question de son appartenance à la communauté. L'Europe, c'est quand même une communauté politique pour nous. Que ça plaise ou ça plaise pas, c'est une communauté politique. Alors, si tous les ans, il y a un des 27 qui dit, bah tiens, après tout, on n'a qu'à se poser la question de savoir si on reste ou si on part. Bon, évidemment, l'Europe n'a plus aucune chance de survie dans cette situation-là. Bon, donc, je pense que ça n'arrangerait pas l'Europe qu'on rafistole. Vous voyez, c'est toujours cette théorie du rafistolage. Voilà, les Britanniques sont partis. D'ailleurs, ce n'est pas dramatique. On trouvera un accord avec les Britanniques comme on a trouvé avec les Norvégiens, qui étaient dans une situation presque pareille, hein, puisque la Norvège des candidates à entrer dans l'Union. Bon, c'est juste avant d'entrer dans l'Union que les Norvégiens ont dit non. Ben, on a fait un accord de substitution, ça peut fort bien marcher. C'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'on comprenne ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé ainsi, pourquoi les peuples ne se reconnaissent plus dans l'Europe. C'est quand même une vraie question, après tout. Comment voulez-vous qu'un citoyen que nous sommes s'y retrouve dans cette Europe? Et comprennent l'affection qui doit le relier à cette espèce de dinosaure plein de rustines.
Merci beaucoup, Bertrand Badie.
Merci à vous. Merci.